Chapitre 34. Rickard est toujours dans le couloir. Avec une sensation de vertige, il regarde sa main ensanglantée. Il a l'impression d'être dans un mauvais rêve. Il dépasse le chariot de ménage, s'arrête devant la salle à manger, et entre deux respirations, il tend l'oreille en direction du hall. La douleur à l'arrière de sa tête devient insupportable. Ses jambes flageolent. Il pénètre dans la salle à manger. Le sol stratifié ondule sous ses pas. Il se précipite sur la porte vitrée menant à la terrasse et tente de l'ouvrir. Une brûlure vive traverse son poignet blessé lorsqu'il tire sur la clenche. La porte est verrouillée. Haletant, il recule d'un pas et donne un grand coup de pied. Malgré le fracas, la vitre résiste. Il cherche un endroit pour se cacher lorsque Jezebel surgit dans le couloir qui vient de la réception. Elle s'arrête devant la salle à manger, cogne sur la porte avec le canon de son arme et lui fait un signe de la main. Rickard arrache la prise du micro-ondes placée sur le plan de travail, le soulève au-dessus de sa tête et le projette contre la porte-fenêtre. Jezebel tire. La balle percute le mur à 2 mètres de lui. Il ôte les éclats de verre et se rue sur la dalle de la terrasse. Les débris crépitent sous ses pieds. Il enjambe une petite haie et commence à courir en direction de la station-service. Le moteur puissant d'une voiture gronde quelque part dans l'obscurité. L'air froid lui lacère les poumons. Rickard entend les pas de Jezebel derrière lui. Droit devant, derrière la haute clôture d'une entreprise de ventilation, un agent de sécurité est posté, une lampe torche à la main.
« À l'aide !» crie Rickard.
L'agent le regarde un instant et se dirige vers sa voiture. Il éteint sa lampe torche, s'assied à la place du conducteur et sort son téléphone. Rickard s'engage sur la chaussée juste au moment où un semi-remorque surgit de la droite. Le conducteur freine violemment, les pneus crissent sur l'asphalte. Il tourne le volant et l'énorme véhicule frôle Rickard. Le poids lourd traverse la bande d'arrêt d'urgence, dévale le fossé et percute un lampadaire. Le poteau s'abat comme un arbre scié et emporte avec lui une banderole publicitaire pour des sapins de Noël. La lumière s'éteint. Des éclats de verre volent sur le pare-brise. Le poids lourd continue sa route à travers des buissons et une clôture basse avant de remonter sur la route par un talus. De la terre et des cailloux sont projetés sur la chaussée. La remorque tangue lorsqu'il accélère de nouveau, puis le véhicule disparaît. Mon Dieu ! Le cœur battant, Rickard court en direction du rond-point bordé d'arbustes nus et voit Jezebel approcher sur le côté. Il s'arrête, se tourne vers elle et lève les deux mains. « Je suis policier et... » Elle tire. Le projectile atteint son gilet pare-balles et une brûlure lui dévore le flanc gauche. Il chancelle, s'agrippe à une branche pour ne pas tomber. L'écho du coup de feu résonne entre les bâtiments. Yuna roule à 210 km à l'heure. Il freine brusquement pour quitter l'autoroute et prendre la bretelle. Ses pneus cognent le rebord du terre-plein et il reprend de la vitesse sur la route 264 plongée dans l'obscurité. Il a activé les gyrophares de la voiture et a distancé le reste de l'équipe d'intervention sur l'E18. Le contact avec Rickard a été perdu juste avant qu'il ne quitte Lindinge via le tunnel de Noralenken. Yuna a compris qu'un événement imprévu avait poussé son collègue à agir malgré l'ordre explicite de ne pas intervenir. Des zones industrielles défilent, des parcs de machines derrière de hautes clôtures. En approchant de l'hôtel, il croise un semi-remorque au phare brisé. Un lampadaire gît dans le fossé. De profondes traces de pneus sont visibles sur le bas-côté. Des mottes de terre et de gazon ont été projetées sur l'asphalte. Une lumière jaune éclatante émane d'une station-service au toit plat. Le rond-point se profile et Yuna s'apprête à le traverser en ligne droite pour atteindre l'entrée de l'hôtel lorsqu'il aperçoit Rickard, debout, au milieu du terre-plein. Son visage est couvert de sang. Yuna relâche l'accélérateur et appuie sur la pédale de frein. Le système de freinage vibre à travers tout le châssis. Un coup de feu retentit. L'écho claque dans la nuit. Rickard est touché au torse. Il s'est agrippé à une branche. Il fait un pas en arrière et secoue les feuilles mortes avant de retrouver son équilibre. Une femme blonde, avec un manteau noir sur une robe rose, se tient à 5 mètres de lui, un Glock 45 dans la main droite. Il est clair que le chargeur est vide, mais elle appuie plusieurs fois encore sur la détente avant de jeter l'arme au sol. La voiture dérape et s'arrête dans l'herbe jaune. Yuna ouvre la portière, dégaine son arme et court vers le rond-point. La femme sort un couteau de chantier de la poche de son manteau, laisse tomber l'étui et avance vers Rickard. Yuna s'arrête, arme au poing.
« Police ! Arrêtez-vous et jetez votre couteau !»
Elle se tourne légèrement vers lui, serrant toujours le manche en plastique rouge.
« Police ! » répète Yuna en avançant. « Jetez votre couteau !»
La femme a l'air désespérée. Du mascara coule sur ses joues. Elle détourne les yeux, regarde son couteau.
« J'aimerais juste vous parler, » dit Yuna calmement. « Mais vous devez d'abord poser votre couteau au sol. »
Les sirènes de l'équipe d'intervention se rapprochent de la zone industrielle. La femme secoue la tête, se tourne à moitié, trace rapidement une entaille sur son poignet gauche et se penche en avant en gémissant. Yuna franchit les derniers mètres en courant.
« Couchez-vous au sol !»
Elle chancelle. Son arme toujours pointée sur elle, Yuna tend la main pour l'aider. Elle a un mouvement brusque et dans un éclair, la lame du couteau pénètre le gilet pare-balles de Yuna. Elle la retire et tente de le frapper de nouveau, visant cette fois la gorge. Yuna bloque son bras, le tire vers le haut et lui casse l'articulation de l'épaule. Elle pousse un cri rauque et le couteau tombe dans l'herbe. Quand il lui fauche les jambes, elle tombe lourdement sur le dos et son collier de perles rebondit sur son visage. Yuna écarte l'arme du pied et constate que la femme ne saigne pas du poignet. Elle a simulé sa blessure. Il la retourne sur le ventre et sent la chaleur de son corps lorsqu'il lui passe les menottes. Le talon droit de sa chaussure est cassé et pend sur le cuir rouge de la semelle. Rickard tombe en arrière et s'affale au centre du rond-point au moment où les véhicules de secours arrivent. Allongé sur le dos, il fixe le ciel nocturne. Seule Yuna est debout. Les phares des collègues qui arrivent de toutes les directions l'éclairent, formant une croix de lumière dans la zone industrielle déserte. Vu d'en haut, le rond-point pourrait ressembler à une ancienne représentation du système solaire, avec autour du cercle central de gazon des anneaux de pavés, de gravier et encore de pavés.